chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien Saint-François, bonjour.
Salut Charles.
Sur les chapeaux de roue ce matin.
Oui, hein?
Vous avez pas,
on était en pleine discussion.
On était en pleine discussion et tu as vu le balai qui s'est organisé pour l'entrevue, ouais, avec Mme Laprise.
Avec toute ton équipe.
Toute mon équipe qui s'est mise sur le téléphone pour rejoindre Mme Laprise, qu'on salue d'ailleurs dans un premier temps. Effectivement, ben, parlons-en un peu de cette grève. T'en penses quoi, cette grève d'école bleue, d'école blanche? À brûle pour point, je te lance là-dessus.
Écoute, c'est pas la première fois qu'il y a une grève. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans tout ça, comme je parle comme contribuable, là, c'est que, tu sais, tout le monde en veut plus, en veut plus, en veut plus, mais c'est toujours les mêmes poches qui payent.
Hein. Ouais.
Je fais un parallèle avec le budget qui a été déposé avant-hier à Québec, les déficits, puis c'est inquiétant. T'sais. La capacité de payer du monde est limitée, mais je comprends que tout le monde en veut plus parce qu'on est dans une spirale inflationniste. Fait que tout le monde paye plus cher pour tout, fait que tout le monde veut plus d'argent, puis ben, ça va, tu sais, ça finit où, à un moment donné?
On peut pas vivre sur la carte de crédit.
On peut pas vivre. Ben, c'est ça. T'sais, on peut pas vivre à crédit, quoi qu'on...
Envoyer ça toujours souvent. Par en avant. Il faut faire attention à tout ça. Ben, parlons-en, tiens, de ce budget.
Ben
lançons-nous
oui.
là-dessus, tiens.
Ben oui, ben, on en parle beaucoup depuis avant-hier. Hein. On a eu une belle surprise. Pas une belle surprise, mais on a eu une surprise quand on nous a annoncé que le déficit bondissait de 3 milliards qui était prévu à 11 milliards. Bon, dans ce 11 milliards-là, il faut dire qu'il y a un 2,2 milliards qui vont au Fonds de génération, comme chaque année, on envoie de l'argent là-dedans. Et puis le ministre Girard aussi s'est donné une provision pour imprévu au cas où que la situation irait plus mal que prévu.
1,5 milliards.
1,5 milliards par année sur 5 ans. Tous les chiffres qu'on nous a présentés sont projetés sur 5 ans. Ce qui nous donnerait un réel déficit de 7,3. Est-ce que c'est le vrai chiffre? Hein? Comme je disais, j'en parlais avec Jacques Létourneau hier, c'est la comptabilité, c'est l'art de faire dire aux chiffres ce qu'on veut bien qu'ils disent.
Nathalie Hott, la fiscaliste avec qui on parlait hier, nous a dit exactement la même affaire. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres.
Je fais un parallèle avec les villes qui déposent leur budget chaque année. On nous présente les chiffres comme on veut bien nous les présenter.
Ouais. Hein?
Le message, c'est ça. Voici le message. Arrange-toi que les chiffres disent ça.
Puis d'aucuns disent, c'est, évidemment, c'est pas notre budget, c'est le leur aussi, ce que nous disait la fiscaliste. Il faut faire bien attention à tout ça. Ce qu'il faut ne jamais perdre de vue, c'est le déficit structurel de 4 milliards, ce qui va revenir
ça
récurrent, quoi qu'on fasse, quelle que soit la politique, il y a un 4 milliards. Là,
donc, on est pris à l'heure actuelle, puis c'est quand même quelque chose. Puis c'est ce que je trouve désolant à tous les niveaux de gouvernement. C'est un cycle éternel. Hein. Pensons au fédéral. On a fait le ménage Chrétien-Martin, Harper, les coupures. Là, Trudeau, il a tout défait ça depuis qu'il est là. On est rendu en déficit, ça a explosé. Même chose au provincial. T'sais, on a eu des cycles, Lucien Bouchard avec sa réingénierie, puis on a mis du monde à la porte, pré-retraite pour baisser les coûts. Après ça, on a eu Couillard, les années d'austérité qu'on vient de vivre.
De rigueur.
Austérité, c'est le terme qui va rester collé à ce gouvernement-là. La CAQ arrive, il y avait 7,7 milliards de dollars. Par contre, il y avait un déficit, ce que Jacques Létourneau appelle un déficit social, c'est-à-dire qu'on avait sabré dans les services comme c'était pas possible.
Ben, un peu après, comme après l'ère Harper aussi.
Exactement. Fait que là, on recommence, puis là, on est rendu avec une situation de déficit structurel. Moi, c'est ça qui m'inquiète dans tout le portrait qu'on nous a présenté, c'est qu'on a un 4 milliards là, qui est récurrent jusqu'à nouvel ordre. Là, on se donne jusqu'à 29-30 pour retourner à l'équilibre budgétaire. Je lisais hier Stéphanie Gramont, elle nous rappelait que juste avant les fêtes, en décembre, pas en cachette, mais je dis sans que ça fasse la une, le gouvernement a révisé la loi sur l'équilibre budgétaire pour en quelque sorte remettre le compteur à zéro, parce que la loi sur l'équilibre budgétaire oblige le gouvernement à rétablir l'équilibre en dedans de 5 ans.
Ouais.
Et avec la pandémie et tout ça, bon. Fait qu'ils ont remis le compteur à zéro. Hein? Fait qu'ils ont ils ont 5 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire, ce qui nous amène à 29-30. Ce qui m'inquiète aussi, ça c'est aussi des chiffres que Mme Gramont rapportait hier, c'est que selon les prévisions du gouvernement à l'heure actuelle, on a une croissance des revenus prévue à 3,3% par année et on a une croissance des dépenses prévue de 2,9% par année, ce qui laisse une marge de 0,4% de plus de revenus. Elle dit pour éliminer le déficit structurel, il faut se rendre à 1,1. Alors, où va-t-on couper? Tu sais, quand j'entends parler, le classique, on va hausser la taxe sur les cigarettes, ça va rapporter 300 millions sur 5 ans, des pinottes.
Ouais.
Tu sais, par rapport à un déficit structurel.
Ce qu'on nous dit, c'est que, bon, les sociétés d'État vont les appliquer d'État, une médecine de cheval, mais
comment?
Après la prochaine élection, en 2026.
Ben oui, c'est ça. Il y a beaucoup de mesures qui vont être après la prochaine élection. Donc, en réalité, puis je pense que c'est Fillon qui disait ça, Gérald Fillon, l'autre soir, en réalité, c'est le prochain gouvernement, qu'il soit formé de la CAQ ou non, qui va avoir le gros du travail à faire. Mais on va faire comment pour éliminer un déficit structurel de 4 milliards de dollars? Santé, éducation, c'est... Grosso modo, là, on a mis le paquet, c'est 60 % du budget de l'État.
Veux-tu savoir ce que ma boule de cristal te dit?
Ben, vas-y donc.
Hausse de la TVQ, hausse de l'impôt. Même si on dit qu'on le fera pas, ça, à un moment donné, on va arriver vraiment. On n'a pas le choix.
Mais
il faut
aussi garder à l'esprit que malgré tout, là, encore aujourd'hui, on demeure parmi les citoyens les plus taxés sur le continent.
Puisqu'on l'est déjà,
mais il y a des limites. Les gens, c'est parce que c'est tout un équilibre à essayer d'aller chercher. Puis c'est qui disait ça? J'ai lu ça, je pense que c'était Francis Veil qui parlait d'un équilibre politique.
Ouais.
Il y a l'équilibre financier, mais il y a aussi un équilibre politique à atteindre. Et puis, c'est complexe, là, parce que comme...
Oui, la confiance en un gouvernement, on dit on est bien géré, on est bien administré.
Là, on peut pas dire que
si
la CAQ...
Ça déraille, mais ma boule de cristal voit quelque chose dans ce genre-là, puis on n'aura pas le choix. Puis
chose certaine.
Les pleurs et les grincements dedans.
Chose certaine, c'est sûr que si la CAQ ne forme pas le prochain gouvernement, ça demeure une forte possibilité. Mais encore, il y a des limites à aller taxer, puis aller taxer, puis aller taxer. T'sais.
Effectivement.
C'est tout un équilibre à aller chercher. Moi, c'est ça. En tout cas, je trouve le portrait est un petit peu inquiétant, surtout en raison de ce déficit structurel-là, parce que ça ne disparaîtra pas. Là.
Voilà. C'est
là.
C'est ça qui est inquiétant.
Et c'est ce qui est le cas en ce moment. Est-ce que l'année prochaine, ça va être pire? On ne sait pas, parce que l'économie, on ne peut pas dire que l'économie va très, très bien en ce moment-là. Ça va pas bien.
Bon, on prévoit que dans le prochain trimestre, ça se replace.
Ben, M. Girard parlait déjà...
Il y a bon espoir.
Il parlait déjà de la deuxième moitié de 2024. Je le trouve très optimiste.
À suivre. Retour sur le discours sur l'état de l'union de Biden la semaine dernière.
Ben oui, ça fait déjà une semaine.
Oui.
Ça m'a fait sourire un peu quand
c'est officiel, il est candidat comme
ça. Oui, les deux, c'est réglé. Là.
C'est
donc
fait, merci, bonsoir.
À moins qu'un des deux meure ou soit incarcéré d'ici là, là. On ne sait pas, hein, parce que c'est des enjeux quand même.
même encore, là.
Ça m'a fait sourire de lire un Biden ferme et combatif. Je l'ai écouté, le discours sur l'état de l'Union.
Moi aussi.
Bon, écoute, c'est sûr qu'il a, entre guillemets, bien performé, mais je pense pas qu'on puisse dire que tout est réglé puis tout va bien. Son âge puis son état cognitif puis tout ça va continuer de le hanter jusqu'au jour de l'élection. Puis tout le monde va surveiller ça. Là. C'est comme ça. Puis c'est pas de faire de l'âgisme, c'est être réaliste. M. Biden, s'il est élu en novembre, aura 82 ans. C'est un record de tous les temps. Tu sais, M. Reagan était plus jeune que ça à la fin de son deuxième
mandat.
Mais
ce qui m'inquiète plus dans tout ça, c'est pas que M. Biden, à 81 ans, qui en perd un petit peu. T'sais. Puis d'ailleurs, il avait un papier fort intéressant dans la presse, dans le cahier Dialogue, sur il y a d'autres choses quand même que l'expérience amène, son expérience de la vie politique.
Ah, c'est clair.
Ce qui me gêne plus, parce que ce que je devine, c'est que M. Biden n'est pas seul. Il y a une équipe solide.
Ben oui, c'est
il n'a pas renvoyé tout son monde à tous les semaines comme le fait M. Trump.
Non, non.
M. Trump, à bien des égards, pas juste là, mais il m'inquiète de ce côté-là parce qu'on est dans le one-man show
Absolument.
Du côté de M. Trump. Et ça, c'est plus inquiétant parce que c'est un vieux grincheux.
Ben écoute, ça, c'est...
Et ça, ben, peu importe salutations au vieux grincheux, là, n'appelez pas à la station, mais ça en est un vrai de vrai.
Puis peu importe qui sera élu, il y aura des enjeux. Il y a quelque chose d'un petit peu... Là, maintenant que c'est officiel, là, que c'est un rematch, comme on dit en anglais, Biden-Trump, tu sais, une des plus grandes démocraties de la planète, voici ce qu'on a à nous offrir. Puis je pense que les Américains... Ce qui sera surveillé en novembre...
C'est étonnant qu'on ait ces deux gars-là comme candidats.
Ce qui sera surveillé en novembre, c'est le taux de participation au vote, parce que moi, je suis convaincu qu'il y a bien des Américains qui ne sont pas du tout enthousiasmés, puis qui n'iront pas voter d'un côté comme de l'autre. Puis c'est vraiment, je pense, c'est un des enjeux qui va faire qu'un ou l'autre va être élu.
Mais ça
va
être intéressant pour ceux qui mangent la politique. Ça va être intéressant de voir comment on va gérer le manque d'intérêt. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans aussi.
Absolument.
S'il
n'y
a pas d'intérêt, comment on peut gérer ça?
Absolument.
Ça va être à suivre.
Ça, c'est sûr que ça va être à suivre pour différentes raisons. Mais
tout à fait.
C'est ça.
Legault, Trudeau, condamné à s'entendre.
On sait qu'ils vont se rencontrer demain. C'est une rencontre pas au sommet. C'est plutôt informel de ce que j'ai pu comprendre dans ce que j'ai lu. Puis on faut pas s'attendre à de grandes annonces qu'on nous dit. Mais c'est sûr que un des gros enjeux sur la table, c'est la question de l'immigration. Hein. On le sait, entre Québec puis Ottawa, on s'entend pas.
Principale pomme de discorde.
Grosse pomme de discorde. Ouais. Et puis le ministre Miller qui veut imposer à Québec des seuils qui ne sont pas les siens. Alors, ça sera à suivre, voir ce qui va sortir de là, mais c'est sûr que les deux ont des enjeux. Hein. Ouais. Legault, il n'est pas très populaire en ce moment, Trudeau non plus. Trudeau, il est de plus en plus de commentateurs et de chroniqueurs publient là-dessus, comme quoi il devrait réfléchir à son avenir politique, puis il y a peut-être le temps qu'il quitte. Il y avait un article pas plus tard cette semaine, je pense que c'était hier, Michel Cog, qui chroniquait là-dessus. Donc, c'est sûr que Trudeau aussi a ses enjeux. Hein, puis les deux sont pas très populaires en ce moment. Puis l'immigration, c'est un dossier important parce qu'on sait, hein, on a plein de problèmes en ce moment, crise du logement et tout. Alors, mais j'ai hâte de voir s'il y a vraiment quelque chose de concret qui va sortir de ça ou c'est juste du blabla. Là. Ça sera
une opération
de relations publiques.
Publique,
parce que les deux essayent de sauver la face hein, dans ce dossier-là.
Mais
il n'y a pas de solution.
Il y a quelque chose de clair, il faut qu'ils se parlent.
Ouais,
c'est déjà fait probablement, mais
il n'y a pas de solution facile.
Il y a une valeur symbolique à tout ça.
Il n'y a pas de solution facile. Il n'y a pas de solution facile, ça c'est sûr.
On verra ce qui va arriver là aussi. Donc on regarde ça de cette rencontre de demain.
Mais ça a l'air qu'il n'y aurait pas de grandes annonces qui vont sortir de là demain. Là, il n'y a pas de solution magique. Il n'y a personne qui va sortir avec une solution à tous les problèmes comme ça.
Crise en Haïti, Ariel Henry qui abdique.
Ben oui.
Hein?
Écoute, quel pays. Hein? Ça fait des années qu'on en parle.
Que de tristesse, que de drame de ce côté-là.
Ah, c'est, ça n'a pas de sens. C'est rendu que c'est des gangs de rue qui
règnent en roi et maître, qui se promènent armés jusqu'aux dents.
Barbecue qui menace d'une guerre civile et le chaos total. Et, c'est... Je sais pas. Là, on nous parle de nommer un comité de transition, mais je pense pas que ça va régler le problème. Le problème, c'est que les Haïtiens, menés par les gangs de rue, veulent dicter leur propre avenir, leur propre sort. Je peux comprendre que ça... Écoute, il n'y a pas eu d'élection dans ce pays-là depuis 2016.
Tout à fait. Monsieur Henry, en devenant le nouveau dirigeant
après l'assassinat du président... Jovenel Moïse.
Moïse, oui.
Donc, en 2021,
a
déjà.
Il a promis des élections, il n'y en a pas eu.
Il n'y en a pas eu, donc on peut comprendre qu'il y a une frustration au sein du peuple haïtien, mais quand c'est rendu que c'est des gangs de rue qui terrorisent la population puis qui menacent de guerre civile, ça va pas bien. Puis on a beau injecter, tu sais, le Canada dit qu'il va envoyer de l'argent, mais il veut pas envoyer de troupes. C'est un dossier délicat. Ouais. Et les États-Unis non plus qui...
Ce pays qui est un des plus pauvres, sinon le plus pauvre au monde,
qui
n'intéresse
à
peu près personne parce qu'il n'y a pas de pétrole.
Il n'y a pas de ressources.
Il y a quelque chose d'assez hallucinant. Puis il y a des gens qui sont là, des gens de grande valeur qui sont là puis qui sont victimes de toute cette affaire-là.
Oui. Ben le peuple est pris en otage. Et tu sais, la perle, ce qu'on appelle la perle des Antilles, il n'y a plus grand lustre à cette perle-là.
Oui.
Puis c'est...
Malheureusement.
En tout cas, je ne sais pas, c'est inquiétant de voir tout ça se dérouler. Puis être voisin immédiat, n'oublie pas, la République dominicaine partage la même île.
L'île d'Hispaniola. Oui.
Puis on sait que ça va quand même relativement beaucoup mieux de l'autre côté, du côté de la République. Là, de toute façon, tout le monde va mieux qu'Haïti. Je pense, comme tu dis, si c'est pas le pays le plus pauvre sur la planète, c'est dans le palmarès des pays les plus pauvres. Ils ont rien.
Alors, on va garder un œil sur eux en espérant que quelque chose se passe, puis quelque chose de structurant. Hey, le Parlement qui a été démoli en plus par un tremblement de terre.
Ben oui, il faut se rappeler du séisme de 2010.
C'est
ça a été
complètement fou,
des centaines de milliers de personnes sont mortes.
Et ce n'est pas que valeur de symbole. Il y a les structures du gouvernement sont ébranlées.
Absolument. Il n'y en a pas vraiment de gouvernement à l'heure actuelle. Il n'y en a pas. C'est les gangs de rue qui runnent, la patente.
Voilà, donc barbecue.
Barbecue et compagnie.
Imagine. Enfin, le président barbecue, ça se dit quasiment pas. Quelle affaire. Enfin, ben merci.
De rien.
Bonne semaine, Sébastien Saint-François. Dans les prochaines minutes, on va parler de gens passifs agressifs, les as du complimarde, diront certains. Alors, on va en parler avec Marie-Zaudette dans les prochaines minutes.